Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous, le journal Loïc Barrière. Les hôpitaux saturés dans plusieurs villes de France en raison de la canicule, notamment à Paris. Parmi les personnes vulnérables, les personnes sans domicile fixe sont particulièrement exposées. Au-delà de la France, c'est toute l'Europe qui suffoque, une vague de chaleur qui s'étend à l'est du continent et entraîne l'annulation d'événements. À Paris, le coup d'envoi du Maghreb des livres demain à l'Hôtel de Ville. L'invité d'honneur cette année est la Tunisie. Pour nous en parler, Anis Kellou de l'association Coup de Soleil. Enfin, le mondial, la France affronte la Norvège ce soir à Boston. La France continue de suffoquer en raison des températures caniculaires. La situation dans les hôpitaux suscite une forte inquiétude. Les urgences sont saturées, notamment à Paris. Le chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou, Philippe Juvin, décrit une situation extrêmement grave. Le médecin, par ailleurs député LR, évoque notamment des personnes sans domicile fixe qui arrivent avec 42 degrés de température. Hypothermie, crise cardiaque et AVC, le nombre habituel de décès a augmenté en lien avec ces pics de chaleur, sans oublier le nombre de noyades qui continue d'augmenter, au moins 55 depuis le 18 juin. Aujourd'hui, 61 départements sont toujours placés en alerte maximale. La vague de chaleur continue de déferler dans l'Hexagone, de jour comme de nuit. Mais la France n'est pas la seule touchée. L'Europe, dans son ensemble, atteint des records inédits. Clara Dubanchet.
Si les journées les plus chaudes jamais enregistrées sont derrière nous en France, 150 millions d'Européens vivent aujourd'hui une journée suffocante à plus de 35 degrés. En effet, la vague de chaleur s'étend vers l'est du continent et pour les scientifiques du World Weather Attribution, le responsable de l'intensité de cette canicule est sans ambiguïté, le réchauffement climatique. À l'heure actuelle, de nombreux pays européens se dirigent vers de nouveaux records de température. Au nord de la France, l'Institut météorologique des Pays-Bas a déclenché pour la première fois une alerte rouge. Le mercure grimpe jusqu'à 40 degrés dans le pays aujourd'hui. Idem en Suisse, qui a aussi battu des records de chaleur, des températures jamais vues, enregistrées à Bâle, et ce depuis au moins 80 ans. Le seuil des 38 degrés a été franchi. Figurez-vous, Loïc, que le dernier record remontait à 1947. Il était alors de 36,9 degrés. Nos voisins britanniques ont eux vécu un record historique d'intervention pour des urgences vitales. Mercredi dans la capitale, les hôpitaux sont saturés et comme en France, des cellules de crise sont activées. En Espagne, 20 millions de personnes ont été concernées par la canicule, avec au moins 212 décès en seulement 4 jours, deux fois plus que l'année dernière. Et quant à l'Allemagne, eh bien le pays vit en ce moment son pic de chaleur, des records absolus sont battus et de nombreuses régions du pays sont en situation de stress thermique sévère, selon le service météorologique allemand. Canicule oblige, tout comme en France, plusieurs événements sportifs et culturels en plein air sont annulés.
Merci Clara. Et en raison des très fortes températures prévues samedi à Paris, la marche des fiertés prévue demain à Paris est reportée. Quant au festival Solidays qui était prévu ce week-end, il est annulé. La préfecture de police de Paris avait appelé les organisateurs à annuler ces deux événements. Par ailleurs, la consommation d'alcool dans la rue et les espaces publics est interdite à Paris depuis midi et l'interdiction de vente d'alcool sera effective à partir de 18h. Dans l'actualité encore, le président libanais Joseph Aoun salue les efforts de la France et de l'Italie pour constituer une coalition multinationale appelée à succéder à la FINUL au Liban Sud. Le mandat de la force de l'ONU expire à la fin de l'année. Pour sa part, le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, appelle Israël à se retirer complètement de chaque centimètre du Liban. Selon lui, le protocole d'accord irano-américain qui a conduit à une trêve au Liban est une déclaration de défaite de la part d'Israël et des États-Unis. L'Agence internationale de l'énergie atomique réclame un système de vérification très poussé en Iran pour s'assurer que le pays ne développe pas d'armes nucléaires, un dossier épineux qui fait partie des négociations en cours entre l'Iran et les États-Unis. En Tunisie, Siem Ben Sedrine affirme avoir été condamné à 25 ans de prison. La justice poursuivait notamment cette ancienne journaliste et militante des droits humains pour des soupçons de falsification d'une partie du rapport final de l'instance Vérité et Dignité, dont elle a été la présidente, une instance mise en place après la révolution de 2011. Retour en France, l'examen de la proposition de loi sur l'aide à mourir est revenu une nouvelle fois à l'Assemblée nationale. Pour la troisième et dernière fois, les députés débattent de ce texte particulièrement sensible. Le texte suscite notamment l'opposition des représentants des trois grandes religions monothéistes, islam, christianisme et judaïsme, qui y voient une remise en cause d'un principe fondamental, l'interdit de donner la mort. Le texte prévoit sous certaines conditions, un recours au suicide assisté ou à l'euthanasie, un texte qui divise l'Assemblée nationale. Le député de la droite républicaine Philippe Gosselin nous dit pourquoi il votera contre.
Quand on regarde justement l'ensemble de ce texte, on a beau nous dire qu'il est équilibré, en réalité il est équilibré, je ne sais pas par qui et comment et de quelle façon, parce qu'aujourd'hui le fait est qu'on pourra, si le texte est voté la semaine prochaine et puis la clôture se ferait vers la mi-juillet définitive, on pourra en France effectivement avoir un suicide assisté, on pourra avoir l'euthanasie qui sera une solution pour la fin de vie. C'est pas du tout ce que nous souhaitons. Donc il y a une vraie évolution et je trouve qu'on n'a pas mis suffisamment en avant les soins palliatifs, même si il y a, il faut que les auditeurs aient bien en tête, un autre texte qui concerne plus spécifiquement les soins palliatifs, qui lui a déjà été voté précédemment de façon unanime, donc ça c'est une bonne nouvelle, mais on estime qu'en réalité, compte tenu de l'absence de soins palliatifs en France, en tout cas de leur insuffisance, parce que parler d'absence est un peu fort, mais en tout cas de l'insuffisance dans nombre de départements et de structures et d'établissements, il importait pour nous qu'on puisse d'abord porter au maximum le développement des soins palliatifs et qu'on examine en un second temps, si l'on peut dire, cette aide à mourir telle que certains veulent l'envisager. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est évidemment un regret. Tout ça, et vous l'avez dit dans votre introduction, concerne aussi l'interdit de la mort. Et on considère, nous, que cette vision de la société n'a rien à voir avec le soin.
Le député de la droite républicaine Philippe Gosselin au micro de François-Xavier de Calonne. Il était l'invité de Grand Angle, émission à retrouver sur radioorient.com. C'est un rendez-vous annuel attendu et cela démarre demain samedi, la 32e édition du Maghreb des Livres, un salon littéraire consacré à la littérature maghrébine et méditerranéenne. Cela se déroule à l'Hôtel de Ville à Paris et c'est gratuit. Un événement organisé par l'association Coup de Soleil en partenariat avec Radio Orient. Les lettres tunisiennes sont cette année mises à l'honneur, un programme riche tout au long du week-end, rencontres avec des auteurs, dédicaces, débats, cafés littéraires ou encore table ronde, un rendez-vous incontournable et aussi un pont entre les deux rives de la Méditerranée. Thibaut Richard s'est entretenu avec Anis Kellou, chargée de mission culturelle pour l'association Coup de Soleil.
Le Maghreb des Livres est un festival littéraire qui a été créé en 1994. Le but, justement, est de regrouper toutes les littératures du Maghreb, ou plutôt de France liée au Maghreb, c'est pour pouvoir montrer à tout le monde cette littérature, leur faire découvrir la littérature maghrébine ou franco-maghrébine, justement dans un but qui rejoint les valeurs de l'association Coup de Soleil qui a été créée en 1985 par Georges Morin et plusieurs dizaines d'amis, qui justement, eux, étaient originaires du Maghreb. Et le but, c'est de lutter positivement, de manière positive, contre les discriminations et les racismes qui touchent malheureusement beaucoup de populations d'origine maghrébine.
Quelle place la littérature maghrébine occupe-t-elle aujourd'hui dans le paysage littéraire français ?
Il y a beaucoup beaucoup d'auteurs maghrébins ou d'origine maghrébine qui écrivent surtout en langue française et qui se sont appropriés cette langue et qui en font des merveilles. Je pense à Yasmina Kadra, je pense à deux jeunes plumes aussi, comme la jeune journaliste Aïda Amara ou Nathir Al-Mouadam, ou dernièrement aussi le doyen de l'université PSL, qui fait un magnifique livre aussi, M. Al-Mouhoub Mouhoud, qui parle justement de son parcours d'Algérie jusqu'en France et qui parle justement de cette double identité franco-maghrébine. Et la place de la littérature maghrébine, est, je pense, est très importante parce qu'encore une fois, les Français d'origine maghrébine aussi apportent leur lot à cette culture française et l'enrichissent dans la production littéraire francophone.
Anis Kellou, chargée de mission culturelle pour l'association Coup de Soleil, et donc ce Maghreb des livres, c'est demain, samedi et dimanche à l'Hôtel de Ville de Paris en partenariat avec Radio Orient. Enfin, ce soir, les Bleus disputent leur troisième et dernier match de groupe de la Coupe du Monde 2026 face à la Norvège, une rencontre qui se fera sans leur sélectionneur Didier Deschamps. Les précisions avec vous, Salma Darlaoui.
Effectivement, Loïc, Didier Deschamps ne sera pas sur le banc ce soir. Le sélectionneur est absent en raison du décès de sa mère. Les obsèques ont lieu aujourd'hui et c'est son adjoint Guy Stéphane qui dirigera les Bleus face à la Norvège. Alors sur le plan sportif, après deux victoires convaincantes contre le Sénégal où les Bleus se sont imposés 3-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, puis un succès éclatant 3-0 face à l'Irak où le capitaine des Bleus a récidivé avec un nouveau doublé, lui permettant ainsi de s'emparer de la deuxième place au classement des meilleurs buteurs de ce Mondial 2026. D'ailleurs, au coude à coude avec le cyborg Erling Haaland et le Brésilien Vinicius Junior, les hommes de Didier Deschamps sont déjà qualifiés pour les 16e de finale, mais l'enjeu reste de taille, terminer premier du groupe I afin de s'offrir un tirage plus favorable pour la suite de la compétition. En face, la Norvège abordera ce dernier match de groupe sans pression lié à la qualification déjà acquise après ses succès contre l'Irak et le Sénégal. Les Scandinaves joueront toutefois la première place du groupe face aux Bleus. Fait surprenant, Erling Haaland a affiché un détachement total avant cette rencontre. Honnêtement, je me moque un peu de ce match maintenant. On est qualifié, on a réussi à passer, ce qui est incroyable, a confié l'attaquant de Manchester City après la victoire 3-2 contre le Sénégal. Le buteur norvégien est même allé plus loin en estimant que les Français vont probablement gagner contre nous et qu'ils vont sûrement gagner le tournoi. Malgré cette sortie pleine de modestie, les Bleus savent qu'ils devront se méfier d'une sélection norvégienne qui aura à cœur de terminer en tête du groupe. Didier Deschamps et Guy Stéphane pourraient également profiter de cette rencontre pour faire légèrement tourner l'effectif tout en conservant une équipe compétitive afin de préserver la dynamique des Bleus avant les matchs à élimination directe. Et si vous voulez vivre cette affiche dans une ambiance de stade, rendez-vous ce soir à partir de 19h30 à l'Adidas Arena. Une watch party gratuite et ouverte à tous est organisée avec retransmission du match sur grand écran et animation. Coup d'envoi à 21h, une belle occasion de soutenir les Bleus avant le début de cette rencontre France-Norvège.
Merci Salma, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve à 17h. Merci à Mohamed Yamout à la technique. Excellente journée à tous.